de l'exploitation politique du clivage racial aux États-Unis. Pour des raisons évidentes, la question de l'exploitation politique du clivage racial a une longue tradition aux États-Unis. La République états-unienne est dans une large mesure née avec l'esclavage. Rappelons que 11 des 15 premiers présidents du pays étaient des propriétaires d'esclaves. Le Parti démocrate était historiquement le parti de l'esclavage et du droit des États à maintenir et étendre le système esclavagiste. Jefferson n'envisageait l'abolition qu'à la condition de pouvoir renvoyer les esclaves en Afrique, car une cohabitation pacifique sur le sol états-unien lui semblait impossible. Les principaux théoriciens de l'esclavage, à l'image du sénateur démocrate de Caroline du Sud, John Calhoun, dénonçaient sans relâche l'hypocrisie des industriels et les financiers du Nord qui prétendaient se soucier du sort des Noirs, mais dont le seul objectif était, selon eux, d'en faire des prolétaires afin de pouvoir les exploiter comme les autres. La victoire électorale du républicain Lincoln, sur une plateforme abolitionniste lors de l'élection présidentielle de 1860, mena à la tentative de sécession sudiste, à la guerre civile, puis à l'occupation du Sud par les troupes fédérales. Mais les démocrates ségrégationnistes reprirent dès les années 1870 le contrôle des États du Sud et y imposèrent une stricte séparation raciale aux Noirs, à défaut de les renvoyer en Afrique. Le Parti démocrate parvint également à s'imposer dans le Nord en prenant la défense des catégories modestes et des nouveaux immigrants blancs face aux élites républicaines. Et c'est ainsi qu'il réussit à reconquérir la présidence des États-Unis dès 1884 et à y alterner régulièrement avec les républicains au cours des décennies suivantes, sur la base d'une plateforme de type social-nativiste, violemment ségrégationniste et différentialiste vis-à-vis des Noirs, mais plus sociale et égalitaire que les républicains vis-à-vis des Blancs. Les choses en étaient encore à peu près dans cet état quand le démocrate Roosevelt fut élu président en 1932. Au niveau fédéral, les nouvelles politiques économiques et sociales menées dans le cadre du New Deal bénéficiaient certes autant aux classes populaires noires qu'aux classes populaires blanches. Mais Roosevelt continuait de s'appuyer sur les démocrates ségrégationnistes dans les États du Sud, où les Noirs n'avaient pas le droit de vote. Les premières enquêtes post-électorales menées lors des élections présidentielles de 1948, 1952, 1956 et 1960 montrent que les électeurs noirs installés au Nord votaient à ce moment-là un peu plus fortement pour les démocrates que pour les républicains. Mais c'est surtout à partir du moment où les administrations Kennedy et Johnson épousèrent la cause des droits civiques en 1963-1964, en grande partie contre leur gré et sous la pression des militants africains-américains, que l'électorat noir se rallia massivement au Parti démocrate. Dans toutes les élections présidentielles menées de 1964 à 2016, on constate que les Noirs ont voté à environ 90% en faveur du candidat démocrate. Voir graphique 15.7. On observe même des pointes au-delà de 95% en 1964 et 1968, en plein cœur de la bataille pour les droits civiques, ainsi qu'en 2008 lors de la première élection de Barack Obama. C'est ainsi que le Parti démocrate, après avoir été celui de l'esclavage jusqu'aux années 1860, puis celui de la ségrégation raciale jusqu'aux années 1960, est devenu le parti préféré de la minorité noire, avec l'abstention. À l'inverse, le Parti républicain, après avoir été celui de l'abolition de l'esclavage, est devenu à partir des années 1960 le refuge de tous ceux qui avaient du mal à accepter la fin de la ségrégation et la diversité ethno-raciale croissante des États-Unis. Après la candidature infructueuse de Wallace en 1968, les démocrates sudistes les plus proches des positions ségrégationnistes entamèrent une lente migration vers le Parti républicain. Il ne fait aucun doute que ces voix racistes ou nativistes, pour employer un terme plus neutre, ont joué un rôle important dans la plupart des victoires républicaines ultérieures, en particulier dans celles de Nixon en 1968 et 1972, Reagan en 1980 et 1984, et Trump en 2016. Il faut également souligner que la structure ethno-raciale du pays, telle qu'elle est déclarée et mesurée par les recensements des États-Unis et dans les enquêtes post-électorales, s'est considérablement transformée au cours du dernier demi-siècle. de la présidentielle de 1948 à celle de 2016, les Noirs ont toujours représenté autour de 10% de l'électorat. Les autres minorités ethniques représentaient à peine plus de 1% de l'électorat en 1968, avant de connaître une forte croissance à partir des années 1970 et d'atteindre 5% de l'électorat en 1980, 14% en 2000 et 19% en 2016. Il s'agit principalement de personnes qui se déclarent comme hispaniques ou latinos dans les recensements et les enquêtes. Au total, lors de l'élection de Trump en 2016, les minorités représentaient 30% de l'électorat, 11% pour les Noirs, 19% pour les Latinos et autres minorités, contre 70% pour les Blancs, dont la part est appelée à diminuer au cours des décennies à venir. On remarquera également que les Latinos et les autres minorités ont toujours voté fortement en faveur des candidats démocrates, 55-70% des voix suivant les élections, mais de façon moins extrême que les Noirs, 90%. Quant aux Blancs, on constate qu'ils ont toujours voté très majoritairement pour les candidats républicains depuis 1968. S'ils étaient les seuls à voter, il n'y aurait eu aucun président démocrate au cours du dernier demi-siècle. On notera aussi que le vote massif des minorités en faveur des candidats démocrates depuis les années 1960 ne s'est jamais expliqué que pour une part relativement faible par les caractéristiques socio-économiques de cet électorat. On remarquera que cet écart d'environ 40 points entre le vote démocrate des minorités et celui des électeurs blancs se réduit très légèrement au cours du temps du fait de l'augmentation de la part relative des Latinos, tout en restant extrêmement important, voire graphique, 15.8. L'explication évidente pour ce comportement électoral très marqué est la perception parmi les minorités, et particulièrement parmi la minorité noire, d'une très grande hostilité du Parti républicain à leur égard. Welfare Queens et Quota Ratio, la stratégie sudiste des républicains. Certes, les candidats républicains de Nixon à Trump, en passant par Reagan, n'ont jamais proposé de rétablir explicitement la ségrégation raciale. Mais ils ont ouvertement admis dans leur rang les anciens partisans des thèses ségrégationnistes. Ils ont continué de manifester jusqu'à nos jours leur tolérance pour les mouvements suprémacistes blancs et parfois de s'afficher avec certains de leurs responsables. Cela est encore apparu clairement lors des événements de Charlottesville, Virginie, en 2017, quand Trump a choisi de renvoyer dos à dos les militants d'extrême droite et ceux qui s'opposaient à cette démonstration de force des néo-nazis et des restes du Ku Klux Klan. De façon générale, de nombreux démocrates ségrégationnistes sont graduellement passés avec leurs partisans chez les républicains à partir des années 1960, à l'image de Strom Thurmond, sénateur de Caroline du Sud, sous l'étiquette démocrate de 1954 à 1964, puis sous l'étiquette républicaine de 1964 à 2003. Grand avocat de la cause des « state rights », c'est-à-dire le droit des États du Sud de continuer de pratiquer la ségrégation et plus généralement de ne pas appliquer les injonctions du gouvernement fédéral en matière de politique sociale jugée trop favorable aux Noirs et aux minorités, Thurmond symbolise le passage de cette thématique du Parti démocrate, qui en avait fait son étendard depuis le début du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, vers le Parti républicain. Dès 1948, inquiet de l'influence que les démocrates nordistes pro-civil rights commençaient déjà à exercer sur le Parti démocrate, Thurmond avait d'ailleurs présenté sa candidature démocrate ségrégationniste dissidente à l'élection présidentielle face à Truman, sous les couleurs de l'éphémère States Rights Democratic Party, plus communément appelé les Dixiecrats. À partir de 1964-1965, la situation va se tendre de plus en plus à mesure que l'administration Johnson tente d'imposer la déségrégation dans les États du Sud, et particulièrement dans les écoles. Le candidat républicain, Goldwater, s'engage contre le Civil Rights Act de 1964. Il perd l'élection face à Johnson, mais il prend fait et cause pour les sudistes dans leur opposition au gouvernement fédéral. Face à l'hostilité des États sudistes et des County School Boards, l'administration Johnson se retrouve à développer des programmes fédéraux, comme Head Start, consistant à passer par des organisations et associations non étatiques pour distribuer les fonds fédéraux dans des écoles maternelles et centres de santé déshérités des quartiers noirs. Nixon remporte l'élection de 1968 en s'opposant à ces ingérences fédérales. Il dénonce notamment les risques de généralisation des timides expériences de busing visant à mélanger les enfants des quartiers noirs et blancs dans les mêmes écoles et brandit la menace de racial cutes qui aurait permis aux noirs de prendre des places aux blancs dans les universités et les emplois publics. Cette Southern Strategy des républicains s'avère particulièrement payante lors de l'élection présidentielle de 1972, où Nixon parvient à capter les voix qui s'étaient portées sur Wallace en 1968. Il est triomphalement réélu face au démocrate McGovern, fortement opposé à la guerre du Vietnam et partisan du développement de nouvelles politiques sociales afin de parachever le New Deal de Roosevelt et la War on Poverty de Johnson, perspective à laquelle Nixon s'oppose avec succès. De façon plus subtile, mais parfaitement explicite pour les électeurs, les candidats républicains à partir de Nixon ont également eu recours à de multiples expressions codées permettant de faire référence aux aides sociales abusives dont bénéficieraient les populations noires, sans le dire directement. L'une des stratégies les plus communes consiste par exemple à stigmatiser les « welfare queens », les « reines de la sécurité sociale », terme péjoratif régulièrement employé pour désigner les mères noires célibataires. Il fut notamment utilisé par Ronald Reagan lors des primaires républicaines de 1976, puis de nouveau pendant la campagne de 1980. Fervent soutien de Goldwater lors de la campagne de 1964, qui lui permit de donner ses premiers grands discours et de se lancer en politique, Reagan s'était également opposé au Civil Rights Act de 1964 et avait attaqué le Voting Rights Act de 1965, qu'il considérait comme inutilement humiliant pour les sudistes et excessivement intrusif. De façon générale, l'exploitation de la thématique raciale joua un rôle important dans le mouvement conduisant au triomphe de la révolution conservatrice dans les années 1980. La nouvelle idéologie conservatrice qui s'est développée autour de Coldwater en 1964, Nixon en 1972 et Reagan en 1980 se fonde à la fois sur un anticommunisme virulent et un discours violemment opposé au New Deal et à la montée en puissance de l'État fédéral et de ses politiques sociales. Ces dernières sont accusées de favoriser les moins travailleurs et la tendance à l'oisiveté des populations de couleur, thème classique depuis l'abolition de l'esclavage. Les dépenses sociales occasionnées par le modeste welfare state mis en place aux États-Unis des années 1930 aux années 1960 sont dénoncées comme à la fois intrusives, coûteuses et de surcroît non prioritaires par comparaison aux enjeux de la guerre froide et de la sécurité nationale que les démocrates socialisants sont accusés de négliger gravement alors que les républicains promettent de rétablir la grandeur du pays. Ces épisodes sont importants car ils permettent de réaliser à quel point l'attitude de Donald Trump sur les questions raciales, par exemple lors des manifestations suprémacistes blanches de Charlottesville de 2017 ou au sujet des statuts de généraux confédérés, doit être replacée dans une longue tradition républicaine remontant aux années 1960. La principale nouveauté est que les autres minorités ont pris une importance nouvelle dans les années 1990-2020. Trump s'en prend donc aux Latinos, dont il parle en des termes particulièrement peu amènes et qui lui ont inspiré son combat en faveur de la construction d'un vaste mur, symbole de l'importance qu'il accorde à la question de la frontière. Plus généralement, il s'est attaqué pendant la campagne de 2016 et depuis son élection à quasiment toutes les populations non blanches présentes aux États-Unis, en particulier à la minorité musulmane, pourtant quasiment absente du pays. Clivages électoraux et conflits identitaires, regard transatlantique. Les pays européens, et notamment la France, ont longtemps regardé avec curiosité et distance les clivages raciaux en vigueur aux États-Unis et leur rôle dans les dynamiques politiques et partidaires exotiques observées outre-Atlantique. En particulier, les observateurs européens ont toujours eu du mal à comprendre comment le Parti démocrate a pu passer de son ancien statut de parti esclavagiste et ségrégationniste à celui de parti des minorités, alors que le Parti républicain, autrefois abolitionniste, devenait un parti doté d'une forte idéologie racialiste et nativiste, et de ce fait massivement rejeté par les minorités. En réalité, ces transformations imprévues et ces comparaisons sont riches d'enseignements pour comprendre les transformations actuellement à l'œuvre et la multiplicité des trajectoires politico-idéologiques possibles en ce début de XXIe siècle, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis et dans les autres parties du monde. Il est particulièrement frappant de constater que les clivages électoraux induits par les conflits identitaires ont aujourd'hui une ampleur comparable des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, l'écart entre le vote pour le Parti démocrate parmi les minorités noires et latinos et la majorité blanche se situe aux alentours de 40 points depuis un demi-siècle, et il n'est que peu affecté par la prise en compte des autres caractéristiques individuelles. En France, nous avons constaté que l'écart entre le vote pour les partis de gauche, eux-mêmes en cours de redéfinition, parmi les électeurs de confession musulmane et les autres, se situait également autour de 40 points depuis maintenant plusieurs décennies, et n'était que légèrement diminué par la prise en compte des attributs socio-économiques des uns et des autres. Il s'agit dans les deux cas d'un effet d'une ampleur massive, beaucoup plus important par exemple que l'écart de vote entre les 10% des électeurs ayant les diplômes ou les revenus les plus élevés et les 90% les moins élevés, qui dans les deux pays est généralement de l'ordre de 10-20 points. Aux États-Unis, on constate que les électeurs noirs votent élection après élection depuis les années 1960 pour 90% d'entre eux pour le Parti démocrate et à peine 10% pour le Parti républicain. En France, les électeurs musulmans votent élection après élection depuis le début des années 1990 pour 90% d'entre eux pour les partis de gauche et à peine 10% pour les partis de droite et d'extrême droite. Au-delà de ces similitudes formelles qui auraient étonné un observateur français si on les lui avait annoncées il y a quelques décennies, il faut toutefois insister sur les multiples différences entre les deux situations. Aux États-Unis, la minorité noire est issue de l'esclavage et la minorité latino de l'immigration en provenance notamment du Mexique et d'Amérique latine. En France, la minorité musulmane est issue de l'immigration postcoloniale, en provenance principalement d'Afrique du Nord et, à un degré moindre, d'Afrique subsaharienne. Il existe certes un point commun important. Il s'agit dans les deux cas d'une situation où une population majoritaire blanche d'origine européenne, qui a longtemps exercé une domination sans partage sur les populations issues d'autres parties du monde, par le biais de l'esclavage, de la ségrégation ou de la domination coloniale, se retrouve à cohabiter avec elle au sein d'une même société et d'une même communauté politique et à tenter de régler ses différends par la voie de la compétition électorale, en principe sur la base de l'égalité des droits, tout du moins d'un point de vue formel. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, il s'agit clairement d'une innovation radicale. Les relations entre les populations issues des différentes régions de la planète se sont limitées pendant des siècles à des rapports fondés pour l'essentiel sur la domination militaire et la force brute, ou sur des échanges commerciaux fortement structurés par les rapports de force. Le développement aujourd'hui au sein de mêmes sociétés de relations d'une toute autre nature, fondées sur des niveaux de dialogue, d'échanges culturels, d'intermariage et de redéfinition des identités inconnues dans le passé, constitue un progrès civilisationnel peu contestable. L'exploitation politique et électorale des conflits identitaires qui en découlent pose des défis considérables qui méritent d'être examinés de près. Pour autant, une comparaison, même rapide, avec les relations observées au cours des siècles précédents, conduit à relativiser l'ampleur de ces difficultés et surtout à ne pas idéaliser le passé. Mais au-delà de cette similitude générale entre les situations observées aux États-Unis et en France, il est bien clair que les catégories et les conflits identitaires en jeu prennent des formes spécifiques dans chaque pays. Du point de vue de la structure d'ensemble des clivages électoraux, la différence la plus frappante est que les Latinos et les autres minorités, qui regroupent au total environ 20% de l'électorat aux États-Unis actuellement, ont un positionnement politique intermédiaire entre les Blancs et les Noirs. Par exemple, ils ont voté à 64% pour la candidate démocrate en 2016, contre 37% parmi les Blancs et 89% parmi les Noirs. Cette position intermédiaire a peu changé depuis 1970. Son évolution future aura une importance décisive pour le devenir de la structure du conflit électoral aux États-Unis, compte tenu du poids croissant des minorités en général. 30% de l'électorat en 2016, si l'on regroupe les Noirs, les Latino-Américains et les autres minorités, et de l'importance déclinante de la majorité blanche, 70% en 2016. À l'inverse, en France, on constate par exemple que la population d'origine étrangère européenne vote en moyenne de la même façon que la population sans origine étrangère déclarée. Par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2012, ces deux groupes ont voté à 49% pour le candidat socialiste au second tour, contre 77% pour les électeurs d'origine étrangère extra-européenne. Voir graphique 15.9. On notera aussi que la population déclarant une origine étrangère, au moins un grand-parent d'origine étrangère, représentait de l'ordre de 30% de l'électorat en France dans les années 2010, soit approximativement autant que les minorités aux États-Unis. Mais cette analogie est purement formelle. En particulier, les électeurs déclarant une origine étrangère européenne, principalement en provenance d'Espagne, du Portugal et d'Italie, soit environ 20% de la population, ne se perçoivent pas et ne sont pas perçus comme une minorité, et encore moins comme une minorité latino. De même, les électeurs déclarant une origine étrangère extra-européenne, en pratique principalement en provenance du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, soit environ 10% de la population, ne constituent en aucune façon un groupe homogène, et encore moins une catégorie ethnique ou religieuse. Beaucoup ne déclarent d'ailleurs aucune religion, si bien que ce groupe ne coïncide que très partiellement avec celui des personnes se déclarant de confession musulmane.